Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour SmackDown, le SmackDown du 12 mai 2023 qui se passait à Knoxville. Un SmackDown que j'ai envie de qualifier d'historique, moi. Voilà, j'y vais pas par quatre chemins. On est en route pour l'or. On aura le grand retour du chef de la tribu, du champion des champions, Roman Reigns. Et on aura aussi un combat pour le titre féminin par équipe. Et puis évidemment, le grand tournoi qui nous emmène vers le nouveau titre WWE, World Heavyweight Title de la WWE. Vous rendez bien compte que je pourrais pas faire ça tout seul. Hein. Vous commentez, vous analysez tout ça. Donc j'ai pour m'accompagner la crème de la crème des spécialistes du catch, l'homme fort de catch-up, Géliel. Comment ça va, Géliel?
Salut Ringside, ça va très bien. Salut à tous également. Et je te rejoins, SmackDown historique, parce que j'ai regardé, alors ça m'a pris un peu de temps parce que la base de données est riche, nous n'avons jamais eu de SmackDown le 12 mai 2023. Donc voilà, je te rejoins sur donc SmackDown historique, comme on peut le dire.
C'est une première.
Une vraie
je ne suis pas sûr que ça se reproduise. Qu'un 12 mai 2023, on ait un nouveau SmackDown.
Pas avant
une révolution, la fin de la civilisation et qu'on reparte à zéro, quoi.
Oui, un nouveau calendrier peut-être.
Ouais, un nouveau calendrier. Ouais. Ça peut arriver, on ne sait pas. Alors, on démarre quasiment en pleine action, hein, ce SmackDown. Mais peut-être que, parce que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu quand même, Géliel. On s'inquiétait, tout ça. Tu peux peut-être nous dire ce que tu as pensé de Backlash?
Ah, eh ben oui, écoute, je peux tout à fait vous en dire.
Je te prends un peu au débotté, mais...
Oui, mais c'est pas très grave, je vais essayer quand même de faire court. Moi, j'ai bien apprécié l'ambiance du pay-per-view. On était sur quelque chose qui était assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. D'ailleurs, ça s'entendait aux ovations, aux chants, aux commentaires, etc., etc. La foule avait ce côté latino très prononcé. Donc, on n'avait pas les one, two, three, hein, vous avez bien vu, hein, c'était les undo stress. Et c'était... Exactement, et c'était vraiment, vraiment très sympa. Globalement, alors j'ai pas vu le kick-off, mais sur les matchs, j'ai alors le Bianca Belair Io Sky, j'ai pas été forcément hyper emballé. Par contre, Seth Rollins, Omos, tout ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Pas emballé non plus par la partie Bronson Reed, Austin Theory. Par contre, dès qu'on a commencé à passer sur la partie un peu Puerto Rico avec Zelina Vega et puis avec Damian Priest et Bad Bunny, Zelina Vega et Rhea Ripley, je trouve qu'on est passé dans autre chose et il y a eu une suite de moments vraiment, vraiment très, très sympa. Quoi. Alors, l'émotion évidemment palpable de Zelina Vega, c'était traverser le visage et tout le corps. On sentait que c'était une commande. Mais n'empêche que ça s'est passé. Il y avait une communion avec le public. À aucun moment, on a vraiment tremblé. Ripley était dans son rôle. Zelina Vega était dans son rôle. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Vraiment plutôt sympa. Ils ont bien fait de faire ce truc-là. Et pourtant, Dieu sait que Zelina Vega, ce n'est pas forcément ma catcheuse préférée. Hein. Et on voit bien qu'il y a un déficit d'à peu près tout face à Rhea Ripley qui fait vraiment next-gen par rapport à Zelina Vega. Mais j'ai bien aimé le moment. Et puis derrière, le street fight Damian Priest avec Bad Bunny entre le combat, l'overbooking, les superstars, l'ambiance, etc. Super, super, super moment. Bad Bunny qui est quand même très efficace dans le ring en tant que catcheur, qui donne vraiment le change par rapport à Damian Priest. Pareil, super moment, vraiment, vraiment grosse communion avec le public également. Donc, beaucoup aimé. On revient sur quelque chose d'un peu plus classique avec Bloodline versus KO, Zayn et puis Riddle. Ouais, un peu différent. Disons que ça m'a un peu fait retomber parce qu'on est revenu sur des choses un peu plus traditionnelles. Alors que j'avais vraiment aimé cette partie LWO et compagnie des deux matchs précédents. Et puis un main event assez spécial, que j'ai trouvé vraiment sympa avec un Brock Lesnar qui fait un match qui dure plus de 5 minutes, donc j'ai trouvé ça bien. Et puis évidemment cette blessure, ce truc hyper spectaculaire. J'ai pas eu le temps de voir si le match avait été raccourci ou s'il y avait eu des choses qui s'étaient passées un petit peu différemment, parce qu'au final, ce pay-per-view, il dure quoi, 3h05, 3h10 dans ces eaux-là, donc il est un peu plus court que les autres. N'empêche, victoire de Cody Rhodes, on va dire méritée, même si on a vu depuis qu'il allait avoir une revanche, qu'il allait se mettre en place. Mais il a quand même bien mangé, Cody Rhodes, du F5, et puis surtout de la German Suplex, assez impressionnante, avec un Lesnar qui est quand même en grosse forme. Hein. Et à un moment, il le jette, mais il le jette vraiment comme un paquet de pommes de terre, et pas celui de 35 kilos, hein, plutôt celui de 5 kilos. Il fait un vol plané, très très haut, Cody Rhodes. Donc, grosse forme pour Brock Lesnar. Alors évidemment, petite victoire un peu volée, mais méritée quand même, pas volée, mais enfin petite victoire intelligente, on va dire, de Cody sur la bête, à suivre, parce que ça marche bien, je trouve que ça marche vraiment bien, et puis le public était aussi assez content de l'opportunité, et puis bah finalement il n'y a pas à tortiller aussi, hein, quand ça sanguignole et compagnie, avec surtout des bêtes comme ça, ah, ça ajoute toujours un petit côté émotion. Donc au final, moi j'ai bien aimé ce backlash, comme je dis, dans un environnement visuel et sonore un peu différent, avec pas mal de avec une grosse partie memories, fan service que j'ai trouvé moi pas de trop et qui est bien passé pour moi, et puis un main event avec des choses à suivre. Donc j'ai vraiment bien aimé ce backlash. Voilà.
Ouais, une belle surprise. Hein, je te rejoins.
Oui.
Bon. On a l'analyse qui est en ligne, donc n'hésitez pas aussi à aller l'écouter pour savoir ce que le reste de la team en pense. Mais ça avait une saveur particulière, hein, ce backlash. Et c'est vrai que niveau ambiance, on a un peu du mal à s'en remettre, parce qu'on va voir que ce soir, même si la foule était plutôt motivée, il y avait quand même un gros gap de... d'ambiance justement entre ce qui se passait à Backlash et ce qu'on aura ce soir, puisqu'on a eu aussi à Monday Night Raw. Vous pouvez aussi aller écouter notre review de Monday Night Raw, hein, qui est en ligne. Voilà, l'ambiance n'est plus la même. Hein. On n'est plus dans cette salle surchauffée qu'on a connue là pendant deux sessions, puisqu'on a eu un SmackDown et Backlash à Porto Rico. Voilà, il faut se réhabituer à ces foules nord-américaines là qui sont tellement difficiles à satisfaire et à faire bouger, hein, dès qu'ils ont leur téléphone sous le nez, c'est fini. Parce que bon, il y a quand même du lourd, hein, ce soir. Alors, on a eu la draft entre-temps aussi. Alors, c'était un trajet à Perplexity, un petit peu, cette draft-là, puisqu'on se retrouve avec des free agents, déjà d'un côté, notamment Brock Lesnar, notamment le Baron Corbin, qu'on aura ce soir.
Le Homos également.
Homos également et free agent. On a des champions tag team qui sont draftés à Monday Night Raw, mais qui affrontent quand même des gens de SmackDown. On a un tournoi pour le titre World Heavyweight qui est réservé à Monday Night Raw, mais bah, on verra ce soir, il y a quand même tout SmackDown qui participe. Donc voilà, c'est compliqué. On est un peu perplexe. Mais bon,
beaucoup plus poreux que les drafts précédentes, où il y avait effectivement bien deux équipes, deux émissions, et puis on allait de l'un à l'autre qu'avec des wildcards ou des choses comme ça. Là, c'est effectivement beaucoup plus trouble. Il y a une zone grise qui est très très large désormais. Ouais. Alors, on verra ce que ça va donner sur l'année. Hein.
Ouais, voilà. Bon, faut reprendre un petit peu les règles de base. C'est aussi ça, catch-up. Hein. Faut qu'on vous explique quand vous êtes perdu. C'est simple, les champions tag, c'est les ceintures unifiées, hein, de Raw et SmackDown, donc ils ont le droit d'aller où ils veulent. Le jour où ils les perdront, bah, ils seront draftés à Raw, hein, ils seront exclusifs à Raw, les Kevin Owens et Sami Zayn. Les ceintures tag féminines, c'est pareil, elles vont de show en show. Ça a toujours été comme ça, finalement, quand on y pense. Oui. Et puis le tournoi donc qui a lieu pour le titre World Heavyweight, ben le gagnant, même s'il est de SmackDown, ben il ira à Raw et puis ça se terminera comme ça. Il sera exclusif à Raw le temps qu'il sera champion.
Oui, c'est ça. C'est sur cette période d'entre-deux en fait qui est un petit peu.
Voilà. Pour remettre les pendules à l'heure. Mais c'est vrai que ça nous a laissé un petit peu perplexe, cette draft qui n'était pas la mieux exécutée de l'histoire des drafts. Donc on est en plein tournoi pour ce nouveau titre World Heavyweight, hein, qui va couronner les gens qui n'ont pas réussi à battre Roman Reigns, hein, je vous le rappelle. Et on démarre avec un triple threat. On est presque direct dans l'action, puisque c'est l'arrivée de Edge, je crois, au ring.
Oui, c'est ça.
AJ Styles et Mysterio sont déjà entre les cornes.
C'est ça, il y aura l'intro que de Edge, effectivement.
Ouais. Et on a donc un triple threat des familles qui s'engagent, qui va durer un bon quart d'heure. Du grand spectacle avec un AJ Styles là, qui revient de blessure, qui fait le spectacle comme rarement dans un weekly. Edge qui est pas là souvent quand même, il nous fait aussi le spectacle où il va réussir d'ailleurs à prendre l'avantage en mettant ses prises de soumission à l'un comme à l'autre. Bon, je vais pas vous faire le play-by-play parce qu'il se passe tellement de trucs dans ce match là, parce que vous comprenez bien qu'avec AJ Styles et Mysterio et Edge dans le ring, forcément il y a du gros spectacle. C'est quasiment un main event de pay-per-view, hein, cette affiche-là, quand y pense.
Oui, puis il y a globalement 50 signature moves à O3, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a de la powerbomb, il y a des contres, il y a des kicks dans la face, tout ce que vous voulez. Et ça se termine, par contre, par pas la meilleure combinaison de la soirée. Alors, après une Tower of Doom encore magnifique, on a Rey Mysterio qui monte dans le coin du ring. Il saute sur Edge pour lui faire un DDT, on pense, mais on sait pas trop ce qui se passe. En fait, il fait pas grand chose. Il finit par mettre un. En fait, il atterrit comme s'il mettait un coup de coude sur la nuque de Edge. Mais par contre, c'est Rey Mysterio qui s'écroule par terre et qui se relève pas. pas le meilleur de moment de la soirée. Alors, c'est vrai que quand tu te tapes le coude, ça peut faire mal. Hein,
je sais pas si c'est déjà arrivé. Contre un meuble, tu sais, tu fais aïe. Puis, du coup, ça,
quand je te porte là, moi je sais que des fois voilà, je me retrouve par terre à me rouler de douleur. Mais du coup, Edge il se relève lui de son côté bizarrement. Et pendant ce temps, il y avait Edge Styles qui a pris son élan sur les cordes et qui place son phénoménal forearm. Et on sait bien que ça, on s'en relève pas. 1, 2, 3 sur Edge. Victoire de Edge Styles. Donc, c'est AJ Styles qui ira en finale ce soir affronter le deuxième vainqueur du deuxième triple threat. Hein, parce que voilà, c'est ça le projet de triple threat ce soir. Et ensuite, en route vers la demi-finale, les deux gagnants s'affrontent. Hein. Donc là, on a déjà un des deux gagnants, c'est AJ Styles. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener, bon Géliel?
Ah bah ça fait partir le show quand même à toute vitesse quoi, parce que on avait effectivement Ray et puis Edge qui était déjà sur le ring, mais on a eu uniquement l'intro de Edge. On n'a même pas eu comme souvent sur les SmackDown une première partie promo. Ça attaque direct à la bagarre et puis Spotfest quoi. Il y en a eu de partout tout le temps. Ouais. Double 619, triple machin, du phenomenal forearm, du spear, double spear, triple spear, du saut, etc. Enfin ça a été, ça a vraiment beaucoup beaucoup bougé sur toutes les 15 minutes ouais comme t'as dit à peu près du combat. Super indécis en plus parce que à part Ray que j'ai trouvé un peu, enfin qu'on n'a pas vu à un moment capable de faire la diff, franchement. Que ce soit Edge ou Edge Styles, on pouvait tout à fait se dire que c'était tout à fait legit qu'il y en ait un des deux qui avance au tour suivant. Ouais. Donc c'était en plus bien écrit parce que du coup on savait pas. Non, moi j'ai trouvé ça sympa, beaucoup d'intensité. À trois, ça marche bien quoi. Quand il y en a deux qui sont dessus à fond, il y en a un qui reprend son souffle et puis après c'en est un autre et puis ça tourne. C'est ce qu'on a vu pendant 15 minutes et limite c'est nous qui étions un peu essoufflés à regarder ça. Parce que ça, c'est parti à 200 à l'heure et c'est resté longtemps à 200 à l'heure. Alors, j'en parlerai après pour la finale. Mais en tout cas, Edge Styles qui revient de blessure et puis qui finalement se qualifie justement pour cette finale. Content pour lui parce que ça fait quand même un moment qu'on l'a pas vu dans quelques programmes que ce soit depuis qu'il était sidekicks d'Omos, un peu bizarrement là.
Ouais.
Donc bien content qu'il revienne. Et puis on va voir ce que ça va donner. En tout cas, super opener qui est parti à 100 à l'heure, quoi.
Ouais, exactement. C'est rare qu'on ait une ouverture de show 100% catch comme ça qui soit aussi qualitative. Hein, j'ai envie de dire. Ouais. Donc du coup, le public était content. Effectivement, victoire de Edge Styles. Alors il y avait eu aussi une promo, si j'ai bien compris, de Edge sur les réseaux sociaux qui avait tendance à le placer en favori pour le match. Sachant qu'il y a aussi un petit document qui avait fuité, un classement en interne de la WWE des scénaristes, des top babyface de SmackDown et des top heel, et Edge est arrivé en premier. Donc, ni une ni deux, hein, le petit monde des fans de catch s'imaginait déjà
c'est
Edge.
Emballé.
Voilà, Edge partait au sommet, ça y est, il allait avoir un méga push. Non, pas du tout, on est sur AJ Styles. Ouais, comme tu le dis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu AJ Styles sur un programme un peu consistant. Il avait beaucoup de jobé pour le Judgment Day, oui. avec Lee aussi, avant qu'il se blesse. Le voilà parti en pole position quasiment pour le World Heavyweight Championship. Il a encore à affronter donc le gagnant du prochain Triple Threat qu'on a directement ensuite après.
Il y a de la viande.
Ouais, il y a de la viande. C'est juste après. Bon, il y a un petit récap sur la rivalité des Usos avec Sami Zayn et Kevin Owens. Et après, bombe directe, c'est l'entrée de Sheamus jusqu'au ring. Sheamus, premier participant de ce Triple Threat où on aura également Bobby Lashley et le champion US, votre champion US, Austin Theory. Donc 13 minutes là, de match, un match de viandard, hein, effectivement. C'est beaucoup plus costaud, c'est beaucoup plus de power move. Il y a encore Austin Theory qui fait son show avec ses rolling blockbuster, c'est blockbuster que ça s'appelle. Rolling blockbuster, rolling drop kick, Sheamus qui fait ses gros coups d'assommoir là quand les mecs sont pris dans les cordes. Voilà, bon, c'est du violent. Il y a Bobby Lashley qui va s'ouvrir le crâne là, à un moment donné. Ça pisse le sang.
À nouveau.
Il a une grosse bosse comme ça. Il a le cuir chevelu pas très épais, hein, ce bon vieux Lashley.
Il est fragile hein, sous ce tas de muscles.
Ouais. Voilà, c'est ça. Il a quelques points faibles. C'est le sommet du crâne. Voilà, bon, c'est pareil. Hein, ça va aussi. Alors, ça va pas à 200 à l'heure comme le précédent, mais il y a quand même un sacré enchaînement de gros moves. C'est, on a aussi. Alors, on a deux vétérans qui savent y faire hein, avec Sheamus et Lashley. Et puis la future star de la WWE, la Theory. C'est encore une fois gros spectacle. Et ça se termine avec Sheamus qui se prend, qui est jeté à l'extérieur du ring après avoir fait un broke kick sur Theory. Et c'est Bobby Lashley qui fait le tomber. Pour la victoire. Bobby Lashley part en finale face à AJ Styles. Donc deux gros clients bien malins, celui qui saura sortir le vainqueur hein, de cette finale.
C'est différent, mais effectivement,
ouais.
Pas simple. Au moment simple. Où le match se termine, pas simple.
Ouais, un affrontement en plus un petit peu inédit. On n'a pas l'habitude de les voir les deux s'affronter, AJ Styles et Lashley. Deux gros main eventers. Bon, gros match, hein. On est d'accord, ouais. Encore une fois, cette triple threat, c'était pas
gros, gros match. Ouais. Et puis, je trouvais qu'Austin Theory s'était quand même bien mis au niveau dans un style différent, évidemment, ouais. Plus aérien. Et je pense que c'est sur ce genre de match où finalement, un Gunther aurait été plus dans le style. Avec du Sheamus et du Bobby Lashley, et finalement d'avoir mis Austin Theory un peu plus aérien, etc. Et ben je trouve que ça rendait vachement bien. Et du coup de voir aussi que sur ce style de match où il est pas forcément dans le match-up absolu, qu'il arrive à sortir quand même un gros match. Pour moi ça continue à montrer à quel point Theory finalement est quand même très 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 bon. J'ai toujours eu beaucoup de mal sur le positionnement initial. Là, il faut quand même reconnaître que c'est costaud, théorie. Et contre Lashley et Sheamus, qui ont enchaîné les gros moves bien puissants, il a jamais été en retrait. Et je trouve que voilà. Alors effectivement, il prend le tombé. Effectivement, c'est Bobby Lashley qui avance dans le tournoi, mais très bon match, différent sur, comme tu l'as dit, sur un autre rythme que le match précédent. C'était un peu obligé d'ailleurs avec les Mastars, mais n'empêche que aussi distrayant. Et puis pareil, hein, à un moment Austin Theory, on a pensé que c'était pour lui. Et puis alors Sheamus était un peu en retrait, mais entre Bobby Lashley et Austin Theory, j'ai plutôt senti là. Et puis finalement, bah, c'est Bobby Lashley qui avance. Pareil, autre style, mais très très beau combat. Et puis bah, là, du coup, on sort de deux gros matchs. Là, on a passé quoi, 35 minutes avec quasiment que 30-35 minutes avec quasiment que du catch. Donc vraiment, et puis du bon niveau, parce qu'il a quand même que du main eventer.
Ouais.
Donc très très sympa sur cette entrée de SmackDown, clairement.
Ouais, c'était du qualitatif. Hein. Là, on était niveau pay-per-view, hein, on va pas se mentir, ou niveau PLE,
Ouais.
comme on dit maintenant. Ouais, quasiment que des anciens champions du monde. Hormis Austin Theory, mais ça ne saurait tarder, ça finira bien par arriver. Ouais, comme tu dis, ça travaille encore un petit peu le personnage de Theory, enfin pas son personnage, mais au moins du moins sa place, sa crédibilité, tout
Sa
simplement dans le ring.
crédibilité, ouais, c'est
Voilà,
ça.
face à des
La légitimité, ouais.
face à des mastars comme Sheamus, des gros clients comme Sheamus et Lashley. Ouais, les Theory, ouais, moi je pense qu'après un face turn, c'est peut-être là que ça va vraiment exploser, ou du moins quand il aura trouvé ce petit truc d'originalité qu'on attend d'un catcheur qui doit passer au niveau supérieur, au niveau main eventer, quoi. Pour
Ouais, je
l'instant,
suis d'accord.
il est bien dans son rôle. Puis on voit que physiquement, il y a plus que tout ce qu'il faut. Ce n'est que le début pour Austin Theory. On vous le dit, on vous le répète. Vous verrez. Voilà, en tout cas, on a été bien gâtés niveau catch pour démarrer ce SmackDown. On va se retrouver dans les vestiaires un petit peu parce que c'est quand même un weekly, hein. Il faut bien créer des histoires et tout ça. Hein, c'est pas tout ça
Faut
de
bien
se
aller
foutre sur la
backstage.
gueule, mais il faut du backstage un petit peu. Donc on a notre ami Adam Pearce qui est au téléphone. Il est en train de lui contempler, hein, tout se passe bien pour lui. Et il se fait interrompre par le nouvel arrivant, voilà, le migrant de NXT, Grayson Waller, qui dit que la semaine prochaine, il aura un nouveau segment d'interview, hein, qui s'appelle le Grayson Waller Effect. Et il souhaite recevoir le gagnant de la finale de ce soir, hein, entre Styles et Lashley. Bah, Adam Pearce, il est de bonne humeur, alors il dit bah, d'accord, bah, c'est signé. Donc voilà, c'est notre première. Comment dire, notre première rencontre avec Grayson Waller, donc l'ancien NXT qui vient avec sa chemise hawaïenne. Voilà, bon, qui joue à NXT, jouait un heel très arrogant. Il a été même en rivalité avec Shawn Michaels presque. Il était en train de créer une rivalité avec Shawn Michaels, mais ça s'est terminé un peu en queue de poisson puisqu'il monte à NXT. Mais c'était un petit peu le chouchou du patron, hein, Grayson Waller. Je crois pas qu'il a été champion, il a peut-être été champion nord-américain. Mais en tout cas, c'était une des stars, entre guillemets, de NXT 2.0. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion de le voir catcher, si tu as suivi NXT, mais peut-être pas, mon bon génial.
Non, 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 je l'ai pas vu catcher. Non, je l'ai pas vu catcher. Donc là, bah, effectivement, on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine, puisque donc bah, le rendez-vous est pris. Effectivement, Adam Pearce est bien meilleure humeur sur ce mois-ci, sur cette semaine-là.
Bah, quand il n'y a
Donc
pas
il
Brock
était tout.
Lesnar qui casse tout,
Ouais, c'est ça. Ou
il est cool.
comment s'appelle? Ou Damien Priest qui fait bobo
Ouais.
à Bad Bunny. Il était bien tendu la semaine dernière aussi. Ouais, bah, écoute, on va voir. Je suis toujours très circonspect sur les constructions. On va voir. On va voir. Je n'ai pas forcément encore d'avis puisque je ne l'ai pas vu catcher. Par contre, sa
Ouais.
chemise était belle, rien à dire.
Voilà, sa chemise était belle. Tu pars sans a priori, tu verras la semaine
Voilà.
prochaine ce qu'il en est. Bon, techniquement, c'est plutôt un high flyer. Et comme je disais, il était plutôt dans le rôle du heel arrogant, à la manière d'un Miz un petit peu.
Ouais, il a un peu le physique, ouais.
Ouais, voilà. Alors, moi, je trouve qu'il est un peu léger physiquement pour être dans le main roster. Je l'aurais bien vu traîner encore à NXT tant qu'il se crée une vraie carrure. Maintenant, bon, bah, on verra bien. Il a un avantage au micro, hein, c'est clair. J'ai peur qu'il prenne la place qui était dévolue à LA Knight. Donc ça m'embête un petit peu. Moi, je pars un petit peu avec un a priori pour le coup. C'est pas un catcheur qui me passionne, ce Grayson Waller, mais on verra. Ils ont l'air d'être derrière lui, ils ont l'air d'y croire. Donc à mon avis, on va en bouffer un petit peu du Grayson Waller.
On va voir.
À suivre. On a un autre arrivé, tiens, de NXT, qu'on avait vu passer la tête la semaine dernière, et qui ce soir a un match contre rien de moins que le nouveau favori des foules en France, le bon Baron Corbin. C'est Cameron Grimes, donc, qui débarque de NXT, avec son personnage de millionnaire du ring, Babyface, qui a fait fortune avec la crypto-monnaie. Il débarque au ring. Le baron est déjà dans le ring, lui. Il prend le micro. Il dit, ben regardez, tiens, c'est Cameron Grimes, le dernier choix de la draft. Le dernier à être picked. Voilà, il va... Dans deux secondes, il est sur le cul, puis on le renvoie à NXT, hein, rassurez-vous. Là, le match commence. Et ça dure près quand même de 6 secondes. Puisque Cameron Grimes fait un...
T'es sûr?
C'est les chiffres officiels. Hein.
Alors, ah, pardon.
Je suppose qu'on compte le son de la cloche.
Ouais.
Puisque voilà, Cameron Grimes fait un, ce qu'on appelle le Kevin. C'est un saut avec les pieds joints sur la poitrine de son adversaire à la manière d'un Kofi Kingston, quoi. Et c'est tellement puissant que le baron ne se relèvera pas. Hein. 1, 2, 3, c'est un squash du baron, à la grande rage des fans français. Et victoire pour son premier match de Cameron Grimes, victoire expéditive. Bon, bah, tu vas me dire, c'est un petit peu juste pour se faire une idée sur Cameron Grimes, mais choqué, surpris par cette victoire express.
Bah disons qu'on n'aura rien vu de ce qu'il fait. Moi, on n'aura rien vu à SmackDown de ce qu'il sait faire. À part être très capable de se plier en arrière pour saluer la foule.
To the moon.
Voilà.
c'est sa catchphrase.
Très, très. Moi, je pense que j'y serais resté avec mon dos. Mais après.
Ouais, attention à la hernie, hein, quand même.
N'est-ce pas? Et mais sinon, oui, bah pas. Faudra attendre le prochain match. Alors, est-ce que ça va? Je pense que ça peut lancer une feute avec le baron et ça peut être quelque chose d'intéressant. Parce que là, on n'a pas vu grand-chose, quoi. On va voir. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, je l'avais vu passer je l'avais vu passer. Il est devenu très, très, très balèze. C'est pour ça qu'il est, il était... Enfin, c'est peut-être pour ça que ça justifie le squash parce qu'il est devenu très très fort. J'ai vu des photos où il était pas aussi. Il a dû passer un peu de temps à la salle parce que là il est, ouais. Il est quand même.
Ben oui, c'est construit un physique hein, de.
Ouais. Pour arriver dans le main roster.
Le gars de la WWE quand même.
Voilà. Et bah du coup on va voir ce que ça donne, mais un squash pareil, je pense que ça va énerver très fort le baron qui va revenir pour les semaines suivantes pour qu'il y ait une feud qui se monte entre les deux.
Voilà. On va voir. Bon, c'est bien pour démarrer une petite feud avec le baron. Ouais, Baron qui est censé être free agent, hein, je vous rappelle.
Également. Mais, ah oui, ok.
Ouais. Ah, le Baron, il est free agent. Hein. Mais bon, bah, vu que c'est un pilier des shows, bah, on risque de le voir assez souvent un peu partout, à mon avis. Et voilà, bah, il fait le job pour ce bon Cameron Grimes. Bon, Cameron Grimes, on verra ce que ça donne. Moi, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il peut apporter en plus à la WWE, comment il va tirer son épingle du jeu. On verra bien. Voilà. Pourquoi pas en équipe avec le baron, hein. ce serait pas mal aussi. Mais pour l'instant, je pense qu'ils vont feuder, hein, déjà, clairement, oui, ça c'est sûr.
Oui.
Mais en solo, comme ça, Cameron Grimes, je sais pas, j'y crois pas trop, mais peut-être qu'on le donnera.
Il a pas un truc qui le différencie hein, sur les dernières arrivées. C'est des gars costauds, mastoc, pas de soucis, mais... Pas lambda non plus, mais je veux dire, il n'y a pas un fait saillant ou un élément qui fait qu'on les identifie, on les différencie. Alors, il faut leur laisser le temps, hein, mais je ne sais pas. Il faut l'avoir.
Ouais, puis son gimmick, c'est pas très enthousiasmant, mais bon, on va voir. On va lui laisser le bénéfice du doute. C'est quand même un talent, c'est une bonne main, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a après? Un petit vidéo package sur Cody Rhodes et Brock Lesnar. Hein, avec ce bon ça il allait écouter la review de Monday Night Raw pour en savoir plus avec cette gueule cassée de Brock Lesnar là qui est revenu faire sa fête à Cody.
Ouais.
Tout est dans notre review hein, qui est dispo sur YouTube et les bonnes plateformes de podcast gratuitement. Et ensuite c'est l'heure des choses sérieuses puisque c'est le retour de la Bloodline, la musique de Roman Reigns qui retentit, la foule est en folie. Évidemment, il arrive très lentement vers le ring, ce bon vieux Roman. Il est accompagné de Paul Heyman, de Solo Sikoa, Évidemment, des Usos. Parce que ça va être un peu le conseil de classe des Usos hein, ce soir. Hein.
Oui. Conseil de discipline même.
Conseil de discipline carrément. Il va prendre le micro. Roman, il est venu pour parler. Hein. Il demande à se faire acknowledge, comme on dit, se faire reconnaître en français. Il félicite Solo Sikoa dans un premier temps. Hein. Super Solo, bon boulot en ce moment. Et après, par contre, ça va être l'heure de passer un savon au Uso. Donc voilà, il explique clairement les gars, à quoi vous jouez là ? C'est quoi cette histoire ? Alors on se rappelle que il n'y a pas eu de contact entre les Uso et Roman Reigns hein, depuis des semaines, depuis que les Uso ont perdu leur ceinture à WrestleMania.
Ouais.
Donc il dit à quoi vous jouez là ? Vous êtes incapable de reprendre les ceintures et en plus vous faites un match tag team et vous me le dédiez et vous perdez derrière, vous me dédiez une défaite. Ça sort d'où ? C'est quoi cette histoire ? Je catche pas en équipe. C'est pourquoi vous voulez me dédier une histoire, vous voulez me dédier un match tag team. Il y a dans la bloodline, dans notre lignée, il y a des grandes équipes. Vous auriez très bien pu leur dédier cette histoire. Donc ça va pas. Et puis il commence à engueuler Jimmy. Il dit parce que Jimmy, il a un sourire un peu crispé, il rit jaune. Alors ça passe pas. Hein, Man Reigns, il dit qu'est-ce qu'il y a ? Je te fais marrer ? Tu rigoles ? Qu'est-ce qu'il y a à rigoler là ? Tu crois qu'on est en train de réenregistrer une pub à la con là ? Comme on fait un pastiche des affranchis, à quoi tu joues? Et puis, il va même lui mettre. Alors maintenant, il va falloir vous excuser, les gars. Hein, il dit, les gars, tout ce que je veux entendre qui sort de votre bouche, je m'excuse, ou je vous présente mes excuses. Ça se reproduira plus. Et rien de plus.
Très, très prêt à remonter, Roman Reigns.
Ouais. Ah ouais, non, ça passe pas. Et puis, malheureusement, Jimmy, il peut pas s'empêcher de rigoler, alors qu'on a un Solo Sikoa imperturbable. Hein. Ça va même aller jusqu'à la poussette et puis la petite gifle un peu faciale à Jimmy. Alors bizarrement Jimmy il commence à s'énerver, c'est presque parti pour la bagarre, mais il y a Jay qui s'interpose et qui dit qui gueule, on s'excuse, pardon, pas notre faute. Et donc du coup ça calme un petit peu Roman, qui donne la parole à Paul Heyman. Et Paul Heyman qui va annoncer tout simplement que ça va être l'heure de récupérer les ceintures. Hein. Il va falloir réparer l'affront qui a été fait à la Bloodline. Donc les ceintures tag team, on va aller les chercher à Night of Champions. Puisque pour représenter la Bloodline, vont y aller pour affronter Sami Zayn et Kevin Owens. Non pas les Uso, mais bien Solo Sikoa. Et le head of the table, le chef suprême lui-même, Roman Reigns, Solo Sikoa, Roman Reigns iront affronter Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres unifiés de la WWE en équipe. Roman Reigns quitte le ring avec après avoir dédié le futur match la grande équipe de la Bloodline, hein, la grande équipe de la lignée. C'est-à-dire Afa, Essika, les Wine de Samoan, la greatest tag team of all time, hein, d'après Roman Reigns. Les White Samoans, Afa, Essika. Souvenez-vous, c'est eux qui avaient intronisé comme chef de la tribu Roman Reigns. Hein, il y a quoi, 3 ans maintenant ? Quelque chose comme ça.
Ah oui. Et,
hein, la cérémonie, ça avait démarré avec ces deux-là, Afa, Essika. Roman Reigns quitte le ring avec Solo Sikoa, puis les Usos se retrouvent un petit peu comme des cons. Au milieu du ring, pas trop rassuré. Après, dans les vestiaires, ils vont avoir une petite altercation avec la LWO qui se fout un peu de la gueule des Uso. Ça passe pas trop. Il y aura un match la semaine prochaine, je crois, entre les deux équipes. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce segment, ce grand retour de Roman Reigns et cette nouvelle étape dans l'histoire de la Bloodline ?
Ouais, très, très, très sympa. Très énervé, Roman Reigns. Là au micro, il a été incroyable.
Ouais.
On l'avait déjà, mais là je trouve que en plus, je trouve qu'il a manié un peu toutes les émotions, entre l'énervement, le sarcasme, tout y était quoi. Mm. Et puis, bah, il commence effectivement à s'en prendre un peu au Joe qui le représente mal, quoi. C'est juste ça qu'il dit, quoi. Et puis, bah, ça tombe juste, ça sonne juste. Il pousse parce que c'est lui le chef de la table. Il tient quand même à le rappeler. Il emmène avec lui Solo Sikoa qui prend du grade sur l'histoire. Et puis, bah, la manière dont c'est présenté par Poleman quand il prend le micro pour aller reprendre cette ceinture. Où finalement, il fait tout comme s'il allait à nouveau avoir les Usos qui allaient reprendre leur ceinture et puis qui bascule sur le fait, ben non, ce sera Roman Reigns et Solo Sikoa. Je trouve que c'est pareil, c'est hyper bien amené, hyper bien raconté. Nouvelle étape. Alors, il y aura encore y a un match qui va suivre, donc l'histoire va continuer à se dérouler. N'empêche que ça a été enfin, moi, j'ai trouvé le moment très très sympa.
Ouais.
Et puis on a fait une petite pause dans la viande, dans les muscles, dans le catch, et ouais, enfin, super segment micro de Roman Reigns, quoi.
Ouais,
Vraiment très bien.
Non, magnifique masterclass, hein, moi je. Effectivement, comme tu le dis, bien positionné au milieu du show après deux gros matchs où on avait besoin de souffler. Un acting de Roman Reigns et puis de tout le monde, hein, en fait. Les Usos, ils sont incroyables aussi, hein, dans leur jeu de un peu de d'ados qui se sont fait prendre et qui se prennent un savon là par le daron. Solo Sikoa toujours imperturbable. C'est énorme aussi ce qu'il fait Solo Sikoa, hein. Franchement, pour un mec qui est arrivé il y a si peu de temps dans le roster, comment il tient son perso la nage là. Alors effectivement, il n'a pas grand chose à faire à part rester stoïque,
alors c'est ce que j'allais dire, il est quand même ultra minimaliste dans l'expression de ce qui
ouais.
se passe. Même.
Mais
Mais il n'y a pas de fausse note. Au moins, on peut au moins lui accorder ça, quoi. Il n'y a pas de fausse note dans la manière dont il présente le perso. Il est effectivement toujours très. Enfin, il intervient à bon escient. Même dans son rôle minimaliste, il a juste quand il met un bras ou il intervient ou quelque chose comme ça. C'est juste. Donc, nul doute qu'il pourra continuer à aller un peu plus loin après. Mais ouais, effectivement, il est là depuis très, très peu de temps et on a l'impression qu'il est là depuis toujours à côté de Roman Reigns, en fait. C'est assez dingue.
C'est assez dingue, ouais. Bon, il y a toujours Poleman et ses mimiques qui fonctionnent. Je trouve que la réalisation, elle est impeccable. C'est vraiment, on est vraiment sur un niveau. On sent qu'ils les ont travaillés, quoi, les segments là. Hein. C'est pas du. J'ai rarement vu un tel niveau de réalisation, d'exécution de l'acting à la WWE, hein, même dans les gros moments. On est vraiment sur une autre manière de faire là, j'ai l'impression, mais qui paye, hein.
Ouais, et puis j'ai aussi l'impression que ça a fait un peu, alors tu le dis, mais ça a fait progresser un peu tout le monde parce que les angles de caméra sont justes, les changements sont bons, les focus sont bons, l'émotion, chaque fois qu'il doit se passer quelque chose, on le rate pas, et on l'a souvent en zoom quand c'est important, etc. Donc c'est tout le monde a, j'ai l'impression que tout le monde a progressé sur ce type de segment un peu émotionnel et promo, quoi.
Non, là-dessus, on sent que c'est vraiment le truc sur lequel ils travaillent le plus, hein, sur ces dernières semaines, derniers mois, dernières années. De toute façon, c'est le grand projet. Moi, je pense que les héros de SmackDown, c'est les Usos, en fait, hein. Et sur Roman Reigns, moi, tu sais quoi, avec son nouveau, son jogging là, floqué avec son petit, son ou sa petite silhouette. Moi, ça m'a fait penser à Michael Jordan, en fait.
Ben oui, exactement, le Jumpman. Exactement.
Ils sont en train de nous écrire une variante de la grande saga des Chicago Bulls, en fait, avec les Usos. Le Roman Reigns, c'est Michael Jordan, et puis il drive sa team de champions. On sait que
De
maintenant
manière un
qu'on
peu
a.
tyrannique aussi,
Voilà.
comme Michael Jordan pouvait l'être, effectivement.
C'est ça, tu vois, le mec un peu mégalo, la machine, quoi. Et
Ouais.
enfin, mégalo, perfectionniste, voilà, qui n'hésite pas à engueuler ses partenaires quand ça va pas comme il veut. Voilà, je pense que l'histoire, l'inspiration, elle vient de là, en fait, qu'on va rester de toute façon sur la Bloodline. C'est ça l'histoire centrale de la WWE en ce moment. Voilà, les grands champions qui marquent l'histoire, quoi, les grands clans. Voilà, un travail, franchement, aux petits oignons, ça m'a rappelé les grandes heures qu'on a eues dans la route vers Mania, là. Alors, il n'y avait pas Sami Zayn et Kevin Owens, mais uniquement la Bloodline, et ça suffit, hein, parce qu'ils sont vraiment au top, hein, tous autant qu'ils sont.
Ouais.
Donc, voilà, hâte de voir la suite. Roman Reigns, ça fait la différence, hein, quand il arrive dans l'arena. Et donc, il part vers les ceintures tag team. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont râlé. Hein. Ça fait grincer des dents beaucoup d'avoir Roman Reigns qui va aller chercher les ceintures tag team avec Solo Sikoa. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, ça me paraît logique tout ça.
Ah bah, disons que ça s'écrit. Enfin, ils nous ont expliqué pourquoi.
Voilà. Et on part dans une direction qu'on n'attendait pas. C'est ça qui est cool. Là, c'est même Jimmy qui se fait allumer. D'habitude, c'est toujours Jay qui se prend les savons. Ouais. Là, on repart sur Jimmy. C'est bien. Ça va pas dans les directions qu'on attend. Mais une fois, enfin, moi, pour moi, voilà, l'histoire sur les mois qui viennent, ça va être autour des Usos. Hein. Ça va être le face-turn des Usos, je pense, d'ici plusieurs mois. Donc, c'est eux les héros de SmackDown. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Hein.
Oui, mais et puis alors je comprends hein, que si on se projette un peu et que ça tourne dans un sens, on va avoir un Roman Reigns qui a tout. Mmh. Bah, effectivement, ça peut ne pas plaire. Maintenant, franchement, comme c'est expliqué, d'où on vient, les défaites, le clan, la volonté de Reigns d'être présent partout, il voit que certains peuvent pas le faire, et ben il va le faire lui-même. Exactement ouais. Comme tu disais dans l'analogie là avec Jordan, où finalement à la fin. C'est à lui qu'on file la balle pour aller faire la victoire, quoi. Et là, c'est à lui qu'on file le ring et c'est à lui qu'on file le job. C'est lui-même qui vient le chercher, en fait, puisqu'à la fin, c'est même pas lui qui prenait la balle. Enfin, c'est pas lui qu'on la donnait, c'est lui qui la prenait. Et voilà. Roman Reigns, il fait pareil. Il fait, allez, c'est bon. Hop, c'est moi qui vais. Je me prends un sidekick et ce sera Solo pour faire la tag team. Et puis, je vais aller le récupérer puisque vous n'êtes pas capable de le faire. Ça s'écrit vachement bien.
Alors, on n'est pas du tout dans une histoire classique de catch, mais c'est ça la WWE, c'est aller nous emmener dans des contrées qu'on ne connaissait pas. Hein, c'est la locomotive. Voilà, ça fait du bien de ne pas être dans un truc qui joue la nostalgie comme on voit un peu partout. Donc, moi, là, je consacre hein, tout ça. C'est vraiment très cool. Tiens, allez, on va parler des filles un peu parce que ça sentait beaucoup trop la testostérone là, depuis le début. Damage Control est interviewé par Kayla Braxton. Bailey, elle est maligne, elle prend la balle au rebond, elle dit qu'elle a beaucoup de points communs avec Roman Reigns. Hein, elle est aussi une grande slam championne, c'est une leader d'exception. Petite déception avec la défaite de Io Sky à Backlash, mais peut-être que Io était pas prête. Hein, voilà, il y a encore un petit peu de boulot. Et Bailey, elle dit même à Kayla de faire suivre l'info à Roman Reigns, comme quoi SmackDown, ça appartient à Damage Control, hein, pas à la Bloodline. Faut pas déconner. Et elles s'en vont. Alors on a quand même Io Sky qui fait des grimaces hein, pendant la petite promo de Bailey. Donc il y a un petit peu les tensions qui commencent. Bon, c'est dommage qu'elle peut pas en faire plus, mais ça fonctionnait bien ce petit truc. Et après, ben, on va avoir le match pour les ceintures de championne de tag de la WWE après le petit segment avec les Usos et LWO.
Oui, dont on a parlé tout à l'heure. Oui.
On en a parlé tout à l'heure. Donc, on a Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui arrivent au ring dans un nouveau costume assorti, la jaune. Elles ont des lunettes de soleil comme les stars. Et puis après il y a le match qui s'ensuit, donc c'est Bailey et Dakota Kai hein, qui seront dans le ring. Io Sky est sur le coin du ring, donc voilà, bah, ça catch hein, comme d'habitude, plutôt joliment. On a au final un groupie Bulga. Alors c'est là qu'on voit qu'ils travaillent moins les filles que la Bloodline. Parce que honnêtement, j'ai pas tout compris à ce qui se passait. Il y a Io Sky qui va chercher les ceintures pendant que Dakota Kai elle fait semblant d'avoir mal au genou pour distraire l'arbitre. Mais l'arbitre finit quand même par voir que Bailey a la ceinture dans les mains. Du coup Bailey elle va se faire je crois attraper par Raquel Rodriguez. Non, elle se prend un petit roll-up par Liv Morgan, pardon. Et voilà, oui. Et c'est la victoire des champions qui conserve. Ouais, il y a un truc que j'ai pas compris parce que Dakota Kai, je crois qu'elle avait aussi une ceinture dans les mains quand elle fait style d'avoir mal au genou. Ouais, c'était pas très bien goupillé cette fin. On voit où ils voulaient en venir, hein. Donc c'est-à-dire, ça fonctionne pas comme on veut au niveau de damage control. On s'en mêle les pinceaux. La discorde qui continue. Liv Morgan et Raquel conservent les ceintures. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette suite des aventures de Damage Control ?
J'arrive pas à être complètement convaincu, même si que dès qu'il commence à y avoir quelques aspérités, ça devient plus intéressant dans ce qu'on nous raconte. Mais j'arrive pas. Puis là, ça part. Alors, Bayley avec Roman Reigns aussi dans le segment précédent. Ok, mais du coup, elle perd le match d'après. Donc,
Oui, alors ça, c'est dommage contrôle, on les appelle d'ailleurs.
Mais dommage, contrôle, dommage. Donc ça tue dans l'œuf le truc, alors que ça aurait pu, hein, ça aurait pu être effectivement un truc où elle roule sur les deux, mais il aurait fallu forcément peut-être quelque chose où il n'y avait pas la stipulation du Tag Team Championship.
Ouais.
Parce que ça aurait pu, elles auraient pu gagner effectivement asseoir cette idée-là, et là ça pouvait partir sur autre chose, sur quelque chose de sympa. Sinon, j'ai pas été emballé, quoi. Le Liv Morgan, Raquel, alors ça fonctionne bien, la grande qui envoie la petite, qui s'en sert comme
arme. Ouais, c'est difficile même, cette équipe, hein, moi j'en peux plus des deux.
Il y a quand même des moments, c'est un peu too much, là où elle s'en sert comme un marteau de Liv Morgan.
Ouais. Ok, moi je vais te dire un truc, moi je trouve que, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient des espoirs sur elle, mais je trouve que Raquel Rodriguez, elle est pas bonne dans le ring. Hein. C'est, ça fait tâche, je trouve, comparé. Autant Liv Morgan, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Mais Raquel,
je trouve que ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Il y a besoin de, en plus, Raquel qui vient nous faire des minauderies comme Liv Morgan, ça passe pas non plus.
Ouais, ça passe pas non plus, c'est malaisant.
Autre chose, quoi. Ouais, franchement. Et puis moi, Liv Morgan, j'ai finalement identifié ce qui me pose souci, c'est qu'en fait, elle a aucune. En fait, il y a un gros truc qui est différent. Il y avait Matt Catpost, que j'aime beaucoup comme catcheur, et j'ai compris pourquoi je l'aimais beaucoup. Ça prend du temps, hein, c'est des analyses fines, hein, vous pouvez vous rendre pas compte.
Réfléchit, hein, hein.
On réfléchit, hein, à catch-up.
Ça turbine le cerveau. Hein.
L'intensité qu'il met lors des déplacements, quand il court sur le ring, quand il se jette, ça crée une dynamique au combat et dans l'exécution des gestes qu'il a, qui est, de mon point de vue, qui est vraiment folle. C'est un des plus rapides, je trouve, dans les accélérations, et du coup, ça donne un impact à ses coups hyper spectaculaire, et j'aime beaucoup. Au contraire d'une Liv Morgan qui va aller se jeter dans les cordes pour prendre son élan en marchant, avec l'effet évidemment nullissime que ça crée, qui revient quasiment en marchant, mais ou en trottinant, sans jamais courir, sans jamais forcer, et je trouve que ça nuit vraiment complètement à l'impact des coups, à l'impression, et puis globalement au match, quoi. Et du coup, avec une Raquel Rodriguez qui se met un peu au diapason, alors qu'elle était quand même partie plus tôt là, lors de son arrivée, sur des choses un peu plus musculeuses, ça rend un truc mollasson, où chacune n'est pas complètement à sa place, et puis surtout un truc complètement dysfonctionnel, quoi. Je trouve que ça va pas. Et puis en face, elles ont pas été formidables non plus, les damage control. Donc je trouve qu'il y a vraiment à retravailler le truc. Il y a certainement mieux à faire, hein, peut-être à construire un truc, mais là ça c'était pas bon. J'ai pas trouvé ça bon.
Ouais. Moi, je suis assez optimiste quand même sur la dissension du damage control. Je pense quand on aura vraiment la rivalité entre Bayley et Io Sky, c'est là que ça deviendra intéressant. Par contre, les champions de tag, voilà, comme j'ai dit, moi, j'en peux plus. Je passe mon tour. Les backstage, toujours, les Brawling Brutes rencontrent des nouveaux arrivants de NXT, les Pretty Deadly, deux petites tarlouses de square, là, qui essayent de se foutre de la gueule de nos amis, les Brawling Brutes. Sheamus se fout un peu de leur gueule aussi. Et puis, visiblement, il y a une rivalité qui commence. Hein. Il y a Sheamus qui leur demande qui c'est qui est Pretty, qui c'est qui est Deadly. Les autres, ils les traitent d'abrutis. Il y a Ridge Holland qui s'énerve. Ça se passera la semaine prochaine, tout ça. Pretty
Deadly. J'arrive pas à savoir si j'ai hâte ou pas. Hein, mais...
Ouais, on sait pas trop. le grand jeu, ça va être d'essayer de mémoriser les noms des deux nouveaux là, hein, Pretty et Deadly.
Oui.
Parce que ça va pas être ça. J'ai aucune idée de comment ils s'appellent. Je l'ai lu, mais je l'ai oublié. Il y a un blond, un brun.
Un blond aux cheveux longs. Oh, ils sont quasiment blancs, ces cheveux, en plus. Ouais, c'est ouais. Un peu bizarre.
Deux espèces de Ken Barbie en homme. Bon, c'est des heels. Ils ont été champions à NXT UK, à NXT. Voilà, généralement, ils sont détestés de la foule. Ils catchent plutôt bien. Voilà, à voir s'ils arriveront à se faire une place dans le roster chargé de SmackDown, où les équipes ont vraiment un haut niveau, mais c'est pareil, c'est des mecs sur qui ils croient, la WWE. Donc, on sait que maintenant, Triple H, il les bichonne un petit peu, ces arrivées d'NXT. Hein.
Très bien.
Allez, la championne, Bianca Belair, arrive au ring, c'est l'heure de la célébration. Elle vient embrasser sa famille qui est au premier rang, parce que c'est une enfant du coin, elle a fait ses études... à Knoxville, je crois, ou je sais pas, ou dans quoi, en tout cas, dans le Tennessee. Il y a Edge aussi qui a embrassé des enfants en arrivant dans le ring, j'ai eu peur, mais en fait, c'était les siens. Hein. Rassurez-vous. Donc voilà, Bianca Belair est là, elle va fêter, mais elle est interrompue par une musique, c'est celle de... c'est celle de Asuka. On nous dit que c'est celle de Asuka, mais moi, j'ai pas trop reconnu la musique d'Asuka, elle doit avoir un nouveau thème. Elle arrive au ring, elle est toujours très mal habillée, Asuka, hein, quand elle est en costume de ville.
Ah, bah là, c'était quelque chose.
Hein,
ouais.
C'était.
Avec son espèce de chemise manoukian de 1900 et des bananes, là.
Un peu RSA Cotorep, hein, mais bon,
elle est des gants.
Voilà, un coup plus, ces gants à ma pas vert satiné, là. Voilà, donc, serrage de main avec Bianca Belair qui est rarement très bien habillée aussi.
Ça, c'est elle a une excuse, hein, c'est elle qui l'a fait, je crois.
Voilà, voilà. La fashion faux pas. Bon, ça serre la main et ça se crache à la gueule. Hein. Asuka sort le Green Mist, qui est un peu violet. Déjà vu tout ça. Hein. Voilà, Bianca Belair se roule par terre, la fête est finie. Asuka est contente et on aura un petit segment après où on voit Bianca Belair toujours dans l'infirmerie avec deux gros bras autour d'elle et qui essaie de lui tendre une serviette. Voilà, personne n'a l'idée de lui donner de l'eau. Peut-être qu'il y a des restrictions dans le Tennessee, je ne sais pas.
L'espèce d'assistant qui est arrivé là, qui balançait, qui avait une bouteille d'eau, qui a balancé l'intégralité de la bouteille d'eau à côté de la serviette, c'était grandiose.
Du beau boulot. Voilà, donc c'est ça l'histoire. C'est Bianca Belair qui s'est aspergé de Green Mist, encore une fois par Asuka. Donc la rivalité reprend entre les deux, après l'intermède Io Sky, hein, c'était affronté à Mania, hein, si je ne dis pas de bêtises, Belair et Asuka. Il y a eu un petit tweet d'Asuka qui dit qu'elle avait mis du piment dans son Green Mist. C'est pour ça que Belair n'était pas contente.
Ah, il y a plusieurs recettes peut-être de Green Mist.
Bah, visiblement, ça c'est un Green Mist au piment. J'ai trouvé que c'était particulièrement mal exécuté. Puisque Belair est resté un moment à se rouler par terre, mais même pas trop à se rouler par terre, à faire si là je suis toute verte, qu'est-ce qui se passe, et Asuka a pas attaqué quoi, elle l'a regardé en rigolant, mais ça a duré bien trop longtemps et puis la séquence backstage était pas plus intéressante, je sais pas, franchement j'ai trouvé que c'était très mal exécuté cette histoire. On comprenait pas qu'en fait elle avait les yeux qui étaient attaqués au piment, Belair. Enfin, du coup, moi, je ne l'ai pas compris comme ça.
Si on ne nous le dit pas, comment on peut pas le voir, quoi, surtout. Voilà.
C'est pas la première fois qu'elle se prend le Green Mist. Ok, elle est aveuglée, mais c'est pas... ça ne brûle pas, quoi.
Non. Bah, ça tourne en rond, là, je trouve. Bianca Belair, enfin, je trouve qu'elle elle arrive
au bout pas à ça, de son
personnage. Non. Oui, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'elle arrive au bout de son personnage. Elle aussi, raconte plus grand chose. Elle n'a plus rien à dire, je trouve, dans son personnage de petits enfants, là, etc. Alors j'imagine bien qu'elle doit vendre un paquet de poupées et que ça doit les embêter de la réécrire sur autre chose. Il n'empêche que voilà, je trouve que là, elle est devenue assez lisse dans ses sorties, etc., etc. Et même si elle est toujours positionnée très forte, hein, et elle le montre, il n'y a pas de souci quand elle catch. Mais je trouve que c'est un peu... Voilà, on arrive en fin de cycle pour moi. Asuka, est-ce que c'était vraiment elle que j'avais envie de revoir ? Enfin, j'ai envie de la revoir, mais Est-ce que c'est elle que j'ai à nouveau envie de la revoir dans contre Bianca Belair, je suis pas sûr. Du coup, ce truc-là, voilà, le segment m'a vraiment pas emballé entre du trop sur la réaction de Belair, puis du pas assez, au contraire, quand une fois qu'elle Grim Mist pour qu'elle puisse aller lui en mettre une éventuellement, Asuka, à Bianca. Ouais, ça a oscillé entre le, enfin, ouais, mal, je suis pas sûr que ce soit, enfin, c'était pas très bien écrit, et puis en plus, ça a été encore moins bien, je trouve, réalisé. Et puis, son pantalon rouge et sa veste, là, faut arrêter, sa chemise, non.
Un styliste, trouver un styliste, Asuka, c'est pas possible.
Ouais, franchement. Donc, non, j'ai pas aimé le segment, puis surtout, j'ai, il me semblait qu'on avait fait le tour du truc, donc, je pensais qu'on allait repartir sur autre chose, surtout.
Voilà. Ouais, on n'est pas hypé pour la suite, clairement. Non. Mauvais boulot. Allez, on retourne chez les mecs. C'est l'heure du main event. Je crois que j'ai rien oublié. Bon, à part qu'on nous annonce ce qu'il y aura la semaine prochaine. Donc, il y aura une rencontre entre Roman Reigns, Solo Sikoa et les champions. Mysterio et Santos Escobar affronteront les Usos. Et les Brawling Brutes affronteront Pretty Deadly. Pretty et Deadly. Et Grayson Waller sera là pour interviewer le gagnant du match qui suit. AJ Styles contre Bobby Lashley, 12 minutes 3 secondes précisément de catch. Ça va dans tous les sens, encore une fois. La puissance de Bobby Lashley qui sait faire coudre le crâne contre l'agilité, la rapidité de AJ Styles, la technicité de AJ Styles.
Oui, on l'avait.
Voilà, gros match et phénoménal forearm pour la victoire d'AJ Styles.
Ouais.
Hein ?
Ouais, ouais. Voilà. Alors,
qui survit à tout ce que lui envoie Lashley. Du Moutou, oui. Vas-y.
J'ai senti que AJ Styles revenait, quoi. J'ai l'impression que là, le deuxième match à grosse intensité pour AJ Styles, il l'a fini un peu sur les rotules, j'ai l'impression. Et du coup, ça allait quand même beaucoup, beaucoup moins vite que ce qu'il a pu faire sur le premier match. J'ai quand même eu une heure, pour se reposer, mais bon. Du coup, j'ai trouvé ça un peu moins impactant, un peu moins costaud et, voilà, j'ai trouvé Bobby Lashley beaucoup plus en forme au final, ce qui fait que la victoire finale, même sur un phénoménal forearm classique, passe. Je l'ai trouvé vraiment un peu en dessous sur ce match-là, avec pas l'intensité qu'il y avait eu sur les deux triple threat précédentes, ce qui est normal vu la configuration des triple threat qui amène à des trucs qui voltigent dans tous les sens ou qui au moins ne s'arrêtent pas. Donc un peu déçu par ce main event d'un point de vue catchesque. Par contre, plutôt content que AJ Styles aille se cogner Seth Rollins pour la ceinture. Et puis on va voir ce que ça va donner, quoi. On va voir ce que ça va donner.
Ouais, alors là, on est plutôt hypé, du coup. Moi, je le trouve un peu dur. Moi, j'ai bien aimé le match. Après, c'est sûr qu'après tout ce qu'on avait eu dans la soirée, on était gavés. C'était une grosse friandise cette fin de match. C'est sûr, un peu moins percutant AJ Styles, ça arrive. Il fête la victoire avec les aussi à la fin. Il y a tout Micheline du con là, ils sont tous là. Lashley, dommage pour lui, il aura tout envoyé quand même, tenter l'Heartlock et compagnie, des power slam, des trucs, mais ça n'aura pas suffi. C'est AJ Styles qui est en forme, qui est l'homme du moment. Rollins et AJ Styles, dream match, moi j'achète tout de suite. Dommage que ce soit en Arabie Saoudite, mais bon, on fera avec. C'était une soirée gros catch à SmackDown. On s'en va du coup pour le mot de la fin, puisqu'on a fait le tour là. Termine sur la célébration aussi avec AJ Styles. Un petit gros plan sur le titre World Heavyweight quand même. Alors, un top, un flop, une note, c'est parti, dis-nous tout. Il y avait du top ce soir.
Ouais, il y avait beaucoup de tops, et du coup, je vais faire un top groupé aux deux triple threat match que j'ai trouvé très sympa, surtout qu'ils sont arrivés en début de show et qu'ils ont lancé toute la dynamique du show sur du catch, sans promo, Et du coup, ça a été vraiment, vraiment très, très sympa. Donc, ça va être mon top. Mon flop, alors je vais le mettre au WWE Women's Tag Team Championship, mais pour plusieurs raisons. Un, parce que j'ai trouvé que in-ring, c'était pas terrible, les associations marchent moins bien, et puis l'histoire avec des petites piques dans un sens qui marche pas, qui, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était mal écrit, mal réalisé, et du coup voilà, ça on sent, et en fait ça met en creux, ça fait apparaître le moins de boulot, quoi, moins d'investissement qui est fait sur les storylines féminines versus tout. En plus on sort d'un segment monstrueux avec la Bloodline, quoi. Ouais, je trouve que c'est même. Allez, je le mets à la WWE, en fait, pour nous avoir, de manière assez criante, montré qu'ils se foutaient de la tag team de la division féminine. Voilà. Je le ressens comme ça, en tout cas. Mal écrit, mal réalisé, pas assez de temps, etc., etc. Donc,
Ouais.
voilà. Voilà.
On
C'est
leur
la
a forcé la
WWE
main.
qui prend à la place des filles qui ont fait, peut-être avec la matière qu'on leur avait donnée, indépendamment de leur capacité catchesque. Et
Quel
puis, sinon,
gentleman.
pour ma note. Ah oui, non, mais j'épargne, j'épargne. Et puis pour ma note, bah, je vais rester sur la dynamique initiale avec une bonne note. Je pars sur un 3-5, parce qu'on est parti à toute vitesse sur ce SmackDown et j'ai adoré le début. Et même si ça s'est un peu ralenti, il y a eu une construction un peu au niveau du rythme qui était très sympa, avec cet intermède promo au milieu qui était fou. Et puis on est reparti sur du cash. Donc, allez, 3-5, parce que j'ai bien apprécié qu'il est passé à toute vitesse ce SmackDown.
Exactement. Soirée caviar, soirée catchesque. Écoute, moi je vais donner mon flop aux filles, précisément à Bianca Belair et Asuka. Du moins le segment qui les concerne, je suis comme toi, je donne mon flop à la WWE. Hein. C'est la réalisation, la mise en œuvre qui n'est pas bonne, à retravailler. Ça va pas, c'était juste mal fait. Quand c'est mal fait, c'est mal fait. Hein. On voit qu'ils avaient bien bossé par
Il faut le
contre.
dire, il faut
Il
le
faut le
dire, il faut
dire,
le dire.
il faut le dire. Voilà, hein, ça va pas. Le timing était pas bon. L'exécution était mauvaise. On n'a rien compris. On n'est pas content. On a l'impression de revoir un truc qu'on a déjà vu 100 fois. Ça ne va pas.
Remboursé.
Rembourser, rembourser. Tout l'inverse, on voit du segment que je vais donner en top, c'est-à-dire la Bloodline. Là, par contre, qui est travaillé au millimètre. Et putain, quelle exécution de chacun des participants. J'adore, j'adore, j'adhère complètement. Et j'aime bien aussi le fait qu'ils nous vendent la plus grande équipe de tous les temps, histoire de finir d'enterrer la concurrence qui s'est quand même construite sur la mise en avant de la division tag team. Voilà, en rabaissant un petit peu la WWE en disant, ah, il y a pas de, ils respectent pas les tag team à la WWE. Ben voilà, là toute l'histoire tourne autour des tag team. La vraie histoire qui compte à la WWE, c'est de savoir qui est la plus grande équipe de tous les temps. Alors qu'on sait très bien que c'est les Usos, mais bon, c'est pas grave. Voilà, du grand, grand, grand SmackDown, ce segment de la Bloodline. Je vais mettre un 4, moi, carrément, hein, parce qu'il y avait du gros catch, du grand spectacle. Comme tu dis, c'est passé très vite. Un petit ventre mou avec les filles, mais bon, on a l'habitude. C'est le jeu, ça, ma pauvre Lucette, comme ils disent dans les pubs. Et par contre, voilà, moi j'ai savouré le truc du début à la fin. Voilà, après une draft qui était particulièrement déprimante, on repart vraiment sur les chapeaux de roue entre Backlash, là, qui était un moment assez spécial, et cette course vers le titre Heavyweight, ce retour de la Bloodline de Roman Reigns, je suis comblé. Ben voilà, on a fait le tour. Alors. Catch up, on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein. Toutes les semaines, hein, SmackDown, Monday Night Raw, ça passe au crible de notre analyse. On fait aussi les PLE, donc je vous rappelle, Backlash, c'est en ligne l'analyse, Monday Night Raw, c'est en ligne, toute la draft, on a analysé tout ça, vous pouvez aller nous écouter. Ça, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à partager l'émission, surtout, sur tous vos réseaux sociaux, hein, sur Discord, sur les machins comme ça. On est sur Discord, l'invitation est dans la description, mais si vous avez vos propres Discord, vos propres salons de catch, n'hésitez pas à diffuser, à partager l'émission. Cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. Tout ça, c'est gratos. On est aussi sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire aussi. Dites-nous un peu ce que vous pensez de cette nouvelle WWE, là, de cette nouvelle saison qui commence, du retour de Roman. Qui est la meilleure équipe de tous les temps? Ça, n'hésitez pas à le commenter.
Et puis, effectivement, le Discord catch-up, hein, où les opinions se font et se défont avec beaucoup d'échanges, et c'est quand même vraiment très, très sympa. Donc, venez discuter, venez nous donner votre avis, venez nous expliquer pourquoi Papy a tort une fois de plus, même si on le sait un peu, c'est toujours plus sympa de tourner au niveau des personnes qui lui disent que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est plus sympa. Non, mais blague à part, c'est vrai que le Discord est un lieu parfait pour échanger sur tout ce qui se passe au niveau de l'univers catch, donc n'hésitez pas à venir.
Voilà, en temps réel, sur Discord, on est là et on tape la causette avec vous. Ben voilà, et ben mon bon Géliel, justement, merci beaucoup d'être venu.
Et ben merci Ringside, très content d'être venu faire cette review avec un temps qui s'éclaircit. Je devrais être là un peu plus souvent désormais, ça devrait aller mieux.
Voilà, on est heureux de l'apprendre, c'est un plaisir partagé. Avant qu'on parte vers de nouvelles aventures dont on vous parlera plus précisément dans les semaines qui viennent. Voilà, bon. Et ben voilà, l'histoire est faite. On se retrouve très bientôt pour l'analyse de Monday Night Raw. On espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. À très bientôt les amis. Ciao, bye bye.
À bientôt à tous et bonne semaine à tous.
On est d'accord que ça manquait de nazis un petit peu cette édition de SmackDown.
Et pourtant, ils nous ont fait des teasers dans tous les sens. Je me suis dit, ça y est, j'étais allé chercher mes bottes. Et puis finalement, déception.
Ouais, tout ça pour rien. On range le casque à pointeau dans l'armoire.